11. Élise. J'ignorais que nous avions autant d'eau dans le corps. Avec ce que je suis en train de suer, nous pourrions régler la pénurie de la planète. Nora, parfaitement sèche, me lance des sourires d'encouragement. Le cours de danse africaine a commencé depuis 10 minutes et déjà je regrette de n'avoir pas opté pour la poterie. La prof s'appelle Mariam. Grande, les cheveux ras, parée de couleurs vives et de bijoux dorés, elle rit fort et chacun de ses gestes semble appartenir à une chorégraphie. Elle est née pour danser. Je ne la quitte pas des yeux. Je me suis aventurée à regarder le miroir. Je suis encore sous le choc. Je préfère m'imaginer aussi gracieuse qu'elle.
« Tu t'en sors super bien !»
me lance ma collègue. Je tente de la remercier, mais le souffle me manque. Je me concentre sur la musique. J'essaie de suivre les pas. Je sautille, un pied, l'autre, je balance mes bras, je sue, je souffle, je souffre, je découvre des muscles dont j'ignorais l'existence, et manifestement, ils sont rancuniers. Pourtant, je ne déteste pas. Au contraire, je retrouve des sensations engourdies. Plus jeune, avant le mariage, avant les enfants, j'aimais danser. Tous les samedis soirs, le rituel était immuable. Au volant de ma Renault 5, je passais prendre Muriel, puis Sonia, et enfin Caroline. Dans le poste, une cassette diffusait nos titres préférés enregistrés à la radio. Nous arrivions au Macumba aux alentours de minuit et après avoir salué toutes les têtes connues, nous rejoignions la piste. Dans la brume nicotinée, sous les lumières colorées au son de Cock Robin, Midnight Oil, In Excess, Dépêche Mode, Aha ou Niagara, j'oubliais l'heure, la fatigue, les chagrins. Mariam annonce la pause. J'ai envie de l'embrasser. Je vide ma gourde tandis qu'elle s'approche de moi.
« Alors, qu'en penses-tu ? »
Je hoche la tête en reprenant mon souffle.
« J'aime bien, mais j'ai du mal à suivre. J'ai plus 20 ans. »
Elle éclate de rire.
« Quel âge as-tu ? »
« Bientôt 50. Tu es plus jeune que moi. »
Cette fois, c'est moi qui pouffe. Nora intervient.
« C'est vrai, Mariam a presque 60 ans. »
De près, je remarque ce qui était passé inaperçu. Les rides qui barrent son front, ses paupières plissées, le gris de ses cheveux qui repoussent.
« L'âge est une prison », affirme la prof. « Je refuse de me laisser enfermer. Il y a des vieilles de 20 ans, moi je suis une jeune de 60 ans. C'est à toi de décider. »
Je hausse les épaules.
« Je suis désolée, mais mes genoux ne sont pas d'accord avec vous. »
Son rire redouble.
« Viens toutes les semaines, je te promets qu'à la fin de l'année, tes genoux auront de nouveau 20 ans. » « Allez les filles, on y retourne !»
Je lance un regard mauvais à l'horloge. Ses aiguilles sprintent pendant la pause et font du surplace pendant l'effort. Mariam sélectionne la musique et la torture reprend. À la fin du cours, je suis une flaque. Tout le monde s'applaudit tandis que je tente péniblement de reprendre forme humaine. Nora m'encourage.
« T'as assuré, je suis épatée !»
Je te déteste. Elle s'esclaffe.
« Je savais que ça te plairait. Je suis heureuse que tu reviennes la semaine prochaine. »
La voix de Mariam s'élève, interrompant mes plans de vengeance.
« Au fait, mesdames, avant que vous partiez, l'association Petits Pas, dont je fais partie, recherche des bénévoles. Si vous avez un peu de temps libre, une réunion d'information se tiendra vendredi. »
J'ignore si l'abus de sport peut provoquer des crises de paranoïa, mais j'ai le sentiment désagréable qu'elle ne me quitte pas des yeux.
« Ça consiste en quoi ?»
interroge une voix. Mariam me sourit comme si j'avais posé la question.
« À câliner des nouveaux-nés hospitalisés. »
12. Lily. Je n'avais envie de voir personne. Je n'avais pas le courage de discuter, d'expliquer. Quand je vais mal, je me recroqueville. Je traverse mon chagrin en solitaire. Mais on nous a dit que ce serait bien pour toi de recevoir des visites. Ton papy, mon père, a ouvert le bal. Ton papa est allé le chercher à l'accueil de la maternité. Tu dormais contre moi. Il est entré tout doucement, avec son sourire comme un déguisement. Il a déposé une bise sur mon front, m'a caressé la tête, et sans un mot, avec son regard, il m'a demandé s'il pouvait t'embrasser. Quand ses lèvres ont effleuré ta tempe, j'y ai vu flou. Après ton papa, le mien est la première personne qui a su pour toi. Tu ne mesurais que quelques millimètres, on était encore dans la période où les risques de fausses couches étaient élevés, mais je ne voulais pas attendre. Même si c'était éphémère, même si on devait le lui reprendre, au moins on lui aurait offert ce bonheur. Il s'est assis face à nous et m'a tendu un paquet. Je lui ai fait signe que mes bras étaient occupés
Il a ri nerveusement.
Ton père a ouvert. C'était un doudou avec un gros ventre et de longues jambes. Il a avoué en chuchotant que c'était la vendeuse qui l'avait aidé à choisir.
Je sais pas pourquoi, mais ça m'a bouleversée de l'imaginer dans ce magasin à la recherche d'un cadeau pour toi.
Il n'est pas resté longtemps. Il a parlé de choses légères, comme pour me contaminer. Il a demandé quand tu allais sortir. Je n'ai pas osé lui répondre qu'on n'en était pas au quand, mais plutôt au si. En partant, il t'a dit « À bientôt, ma chérie ». Et ça m'a éventré le cœur. Ta marraine est arrivée un peu plus tard. C'est ma plus ancienne amie. La première fois que je l'ai vue, c'était à notre rentrée en CP. Elle était chaussée de ballerines roses merveilleuses. Quelques jours plus tôt, j'avais supplié ma mère de me les acheter, mais elles coûtaient trop cher. J'avais eu des baskets et une sucette offerte par la vendeuse pour sécher mes larmes. Quand la maîtresse nous a demandé de choisir une place dans la classe, je me suis assise à côté de la petite fille aux ballerines roses. Depuis 20 ans, main dans la main, on a appris à lire, à écrire, à pardonner, à embrasser des garçons, à dormir tête bêche, à faire le mur sans réveiller les parents, à se comprendre, à garder des secrets, à se perdre, à se pardonner, à surmonter l'insurmontable. Quand ma vie s'est fracassée à 13 ans, beaucoup ont fui ma douleur. Mais la main de ta marraine n'a pas quitté la mienne. Patiemment, elle m'a regardée ramasser tous les morceaux. Elle m'a aidée à les recoller, acceptant que certains ne soient pas tout à fait à la bonne place, que je ne sois plus exactement la même. Un an plus tard, quand son existence a volé en éclats, nos mains se sont rivées à jamais. L'amitié, parfois, ça tient à une paire de souliers roses. Elle est entrée dans le box, m'a serré fort et t'a caressé le pied. Elle ne pouvait pas plus.
Alors, petite puce, tu veux déjà te faire remarquer ?
Elle avait préparé sa blague. C'était bon que quelqu'un s'adresse à toi comme si tout était normal. Elle t'a apporté un doudou, jaune avec des grandes oreilles, et avait aussi un paquet pour moi.
Y a pas de raison qu'on ne gâte que les bébés, merde, c'est quand même toi qui te tapes les hémorroïdes.
C'était un fromage de chèvre et un bout de pain. Le meilleur cadeau. Alcool, huîtres, saucissons, j'ai supporté toutes les interdictions de la grossesse, parce que c'était pour ton bien. Pour la cigarette, j'avais anticipé en arrêtant de fumer 2 ans plus tôt. Mais je n'ai pas passé un jour sans me plaindre du manque de fromage. J'ai essayé de me contenter de ceux qui étaient autorisés, au lait pasteurisé, mais aucun n'égalait le rocamadour, un cabécou au lait de chèvre cru. Tu me pardonneras, mais je t'ai confié à ton papa le temps d'honorer mon cadeau comme il se devait.
Ta marraine était encore là quand tes grands-parents paternels sont arrivés. Tu étais toujours blottie contre le torse de ton père. Ils t'ont offert un doudou rose en double exemplaire.
Félicitations, tu vas pouvoir faire un élevage.
Ta grand-mère t'a couvert de baisers. Ton grand-père t'a murmuré combien tu étais jolie. J'ai vu que ton papa retenait ses larmes. J'ai profité du départ de ta marraine pour vous laisser. Je l'ai raccompagnée jusqu'en bas. J'ai même osé quelques pas dehors. Il faisait une chaleur sèche. J'avais oublié que c'était l'été. En ce moment, je vis en hiver. Je remontais le long couloir, j'étais presque à ton box, quand la voix de ta grand-mère m'est parvenue. J'ai compris qu'elle s'adressait à ton papa.
Peut-être que si elle avait fait plus attention, on n'en serait pas là. Maman, je dis ce que je pense. Elle aurait dû arrêter de travailler, je l'avais prévenue. Elle n'en a fait qu'à sa tête. On est bien avancé maintenant.
J'étais tétanisée, au milieu du couloir. Il ne me voyait pas. Estelle, la puéricultrice, m'a lancé un regard interrogateur. J'ai secoué la tête. J'ai attendu la réponse de ton père. Elle n'est pas venue. Alors, je vous ai rejoint, et ta grand-mère m'a accueillie en souriant et en complimentant ma bonne mine. Ils sont partis peu après. Estelle les y a poussés en annonçant qu'il était l'heure des soins. Je n'ai pas voulu en discuter devant toi. Tu as besoin d'ondes positives, pas d'entendre tes parents se déchirer. J'ai attendu qu'on regagne notre chambre. Je ne suis jamais plus fragile que quand je viens de te quitter. Tu aurais pu me défendre ?
De quoi tu parles ?
Tu le sais très bien. Ta mère m'accuse d'être responsable de la prématurité de notre fille. Et toi, tu ne dis rien. Il a avancé la main vers moi. J'ai reculé.
Lily, tu connais ma mère, tu sais que ça ne sert à rien.
Il a essayé de me consoler, de me raisonner, mais je suis restée silencieuse jusqu'à ce que le sommeil vienne me faucher. Je ne lui en voulais pas. J'étais bien trop occupée à m'en vouloir, à moi. Depuis ta naissance, la culpabilité est devenue ma dame de compagnie.
Et si j'avais mangé plus de légumes? Et si j'avais arrêté de travailler? Et si j'avais demandé à ton papa de porter les sacs de course? Et si je n'avais pas passé l'aspirateur? C'est mon corps qui a failli. C'est moi la coupable. J'aurais aimé que ton père fasse semblant de ne pas le penser.